Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Santé, Mario ! Ouais !
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious !
Il est espagnol, Rafael Jala !
Hello les légendes et bienvenue pour notre 63e épisode et la deuxième partie avec le coach Ronan Lafay. On se retrouve comme chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Ronan revient pour nous sur ses collaborations simultanées avec Gilles Simon et Steph Robert lorsque ces derniers étaient top 20 et top 50, pas mal pour un gars qui a été 15-2 à son meilleur. Il nous dissèque les failles et les forces du spécimen Stéphane Robert et revient pour nous sur les moments les plus beaux mais aussi les plus durs qu'ils aient eu à gérer ensemble. Lafay balance quelques anecdotes sympas et sa vision de coach sur Rog, Djoko et Rafa. Il nous illustre sa vision du tennis de demain et c'est toujours hyper intéressant venant d'un expert. Ronan nous confie ce qu'est le plus dur selon lui dans la préparation mentale après avoir coaché des joueurs de tennis, des golfeurs, des navigateurs et des chefs d'entreprise. Je vous garantis que vous allez en avoir pour votre grade les légendes. Sur les questions de fin, notre invité se montre enfin vulnérable et nous confie la période de sa vie où il a profondément dû se remettre en question grâce à une technique bien à lui qui lui a changé la vie. Pour aller plus loin dans la gestion de votre mental sur le cours, je suis allé vous chercher un prépa mental slash sophrologue pour notre quatrième masterclass avec Gilles Tarraquois qui a travaillé pour la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes après qu'un certain Gilles Moreton, actuel président de la Fédé, soit allé le chercher pour coacher les jeunes pépites. À travers ce nouveau cours d'1 heure, Gilles nous fait une initiation à la sophrologie où je vous sers de cobaye, c'est cadeau. Vous n'avez plus qu'à lancer l'audio ou la vidéo et suivre le son de sa voix pour poser votre respiration et gagner en sérénité sur le cours. Cette nouvelle masterclass va te permettre de mieux gérer ton stress en match, en compétition ou dès que tu fais des points, de gérer la peur de gagner quand la victoire est au bout de ta raquette et de reproduire le niveau de jeu de l'entraînement pour jouer aussi relâché en match. T'as accès à ce nouveau cours en format audio et vidéo et je t'ai également concocté un support écrit pour le suivre. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, t'as un lien juste en dessous en description. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible, il suffit de m'écrire à max@tennislegende.fr. Place à notre 63e épisode et deuxième partie avec le passionné et passionnant Ronan Lafay. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Est-ce qu'il y a des moments où, comme tu as appris sur le tas quand même, cet accompagnement du circuit, des joueurs professionnels, des moments où tu l'ouvrais un petit peu trop, tu poussais un peu trop dans les retranchements et où tu regrettais, te dire « Ah putain, je suis allé trop loin, ah je le saurais à l'avenir, je ferais différemment. » Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as fait des erreurs et si oui, lesquelles?
À partir du moment où moi, mon coaching, il est participatif, ça veut dire que, un, j'observe la posture du joueur. Je prends en compte comment il est dans son état d'esprit. Je prends en compte sa posture. Et avec ça, en fonction de ces éléments-là, moi, je vais poser des questions. Donc, finalement, je ne prends jamais un risque dingue. À un moment donné, si Steph, il n'est pas bien, je ne vais pas lui poser des questions qui vont l'amener encore plus mal. Ce n'est pas ça, mon job. Tu comprends ? Donc, finalement, des erreurs. Marrant parce que je ne sais plus qui m'avait posé ça il y a quelques années. Non. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai faites que je ne referais plus ? S'il y a un truc, peut-être, c'est… j'allais dire, c'est peut-être… Mais bon, non. En tous les cas, dans notre relation à nous avec Steph, non, pas une seconde. Je ne changerai rien. Il y a des moments… Non, mais il y a des moments, par exemple, il a gagné un challenger et je lui ai dit que j'arrête notre collaboration, par exemple. Parce que je trouvais que notre échange, il ne parlait pas assez, il ne s'impliquait pas assez dans le projet. Voilà. Donc, toi, j'ai fait des trucs comme ça.
2018, vous tirez jusqu'où, jusqu'en quelle année et qu'est-ce que vous vivez sur cette dernière ligne droite?
On travaille, je pense, super bien. Ça doit être 2018-2019, je pense. Ça doit être ça, ou je ne sais plus, un truc comme ça. Okay. Et 2018, c'est là où il monte, il fait 50e. Il fait demi à Hambourg, sur terre. Et puis après, on part à Washington, on prend l'avion, on arrive le lendemain, je crois. On joue sur dur, il fait chaud, je me rappelle. Et puis, il joue le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus. Bref, puis il perd. Après, on va à Toronto sur un Master 1000. Il repère sur Yuzny. Et c'est là qu'il faut… Je pense que mentalement, il faut être fort sur le gros circuit. Parce qu'en fait, à ces niveaux-là, quand tu es 50e, tu ne gagnes pas beaucoup. Donc, il faut accepter en fait, de prendre l'eau. Et puis moi, c'est un moment où je suis avec Gilles aussi. Et donc, je fais la dernière année et demie, je suis avec Gilles et Steph. Donc ça, c'est un moment aussi sympa. Gilles est 20e, Steph est 50e. Bah, je te disais que c'est un rêve éveillé. Gilles vient me voir en me disant, je viens de voir, Ronan, on se connaît depuis très, très longtemps. Il vient me voir, il me dit, voilà, je pense que Steph, il a le plus beau mental du tennis français. Venant de la part d'un mec comme Gilles, si tu veux, c'est quand même énorme. Mmh. Donc, quand je te dis que je viens vers un rêve éveillé, voilà, tout d'un coup, je m'occupe d'un mec, d'un top 50 et d'un top 20.
Si tu veux, c'est étonnant pourtant qu'il dise ça alors qu'il a fait face à 1000 problèmes et il a disparu quand à chaque fois, tu vois, on le disait tout à l'heure, il était 61, boum, il repart parce que trop de projecteurs. Et Gilles, selon toi, pourquoi est-ce qu'il juge qu'il a le meilleur mental du tennis français quand même?
Parce que pour Steph, pour Gilles, Steph, quand il joue, il joue. En fait, il joue tout le temps. Il n'arrête jamais de jouer. Il y a des moments où il n'a pas été bien, il a sombré, mais autrement, quand il joue tout le temps. Il cherche toujours une solution. Il y a toujours un moment où il peut. Voilà. Donc, il est toujours en train de chercher ce qui va faire tourner la voilà. Donc, c'est en ça qu'il l'a trouvé, qu'il a trouvé qu'il avait un mental. Voilà, le meilleur mental du tennis français à l'époque.
Et juste avant de continuer sur le tandem, Gilles-Stéphane, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu Steph jouer contre Djoko à Rome? Là, pour le coup, c'était en 2016, où il plante 33 coups gagnants, il marche sur l'eau. C'est monstrueux, ce niveau de jeu.
C'est le rêve que j'avais, la vision que j'avais du tennis de Steph et la vision du tennis de haut niveau que j'avais dans les années futures. C'est-à-dire que Steph, lui, il s'est entraîné à jouer de n'importe quelle zone du terrain et à pouvoir mettre des winners partout. Voilà. Nous, on s'est entraîné pendant des années à ça. Donc, il est capable de n'importe où d'être très précis quand il est dans le bon état d'esprit. Et ce jour-là, il l'a été. Steph, il était prêt pour moi. Dommage qu'on s'est connus à 21 ans. Mais pour moi, il était… Je pense qu'il retournait comme un mec du top 10. Il servait malheureusement pas comme un mec du top 10. Mais je pense qu'il y a, ouais, il y avait. Moi, je croyais qu'il allait être beaucoup plus fort que ça. En tout cas, tu m'aurais dit, Steph, il va être top 10, j'aurais dit oui. Je pense qu'il a une qualité de frappe, il a un retour, mais de malade. Il est capable, en coup droit et revers, de mettre tout le monde loin. Loin. Donc, quand tu retournes déjà, tu pèses. Bah oui, tu pèses sur l'adversaire et contre n'importe qui. Tu leur montres que finalement, Gilles et Steph, ils pèsent très, très lourd en retour. Et
il a quoi? Il a un œil qui voit plus vite que la moyenne?
Je pense qu'il a un œil qui va plus vite que la moyenne. Je pense qu'il est capable aussi. Nous, on a fait beaucoup, beaucoup de travail de méditation sur cette attitude, justement. On a travaillé sur le calme pour ne pas lâcher le terrain très tôt, trop vite. Il avait tendance à se jeter très vite, trop tôt dans la balle. Donc, il y a un vrai travail sur les pieds pour garder justement du sol très longtemps pour pouvoir, au dernier moment, être efficace. Donc, il y a eu aussi. Et puis, tout le travail qu'on a fait de relâchement, aussi bien mental que physique, ça fonctionne à merveille pour ce moment-là, en tous les cas.
Il a manqué quoi pour battre Djoko ce jour-là, tu penses?
Il manque à Steph. J'allais dire de ne pas avoir performé assez tôt et de ne pas avoir assez cette habitude d'avoir au bout de la canne des grands joueurs. Voilà. C'est ça qui lui a manqué. Il n'a pas eu dans sa jeunesse, il avait un peu les mêmes soucis, il ne voulait pas être dans les tout meilleurs, tu vois, il y a eu toujours ce souci-là et je pense que c'est juste ça. Il en aurait battu. Déjà, tu vois, quand il est arrivé sur le circuit, la première fois, il ne voulait pas s'entraîner avec eux. La deuxième fois, en 2018, il a joué beaucoup avec eux. Donc voilà, tu vois, c'est tout ça, en fait. dans la construction d'un champion, il y a tous ces détails qui font qu'à un moment donné, il ne va plus les regarder, il va les jouer, il va se rendre compte. Voilà. Et je pense qu'il ne les a pas assez joués, ces mecs-là, à l'entraînement. Et il ne les a pas battus assez à l'entraînement pour dire, bah voilà, tiens, regarde, je suis capable. En fait, c'est ce « je suis capable », il est très important d'avoir ça en tête, tu vois. Et si tu n'as pas ce « je suis capable », c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Donc, c'est ça qui lui a manqué. Bah, je te donne un exemple parce qu'il joue Djoko à ce moment-là. Derrière, il joue Anderson, qui est top 20 à l'époque. Il gagne 4-7. Derrière, il joue Zverev, qui est jeune à l'époque. Et ils sont à 1-7 partout. Et Steph fait le break. Je crois qu'il mène 3-1 à lui de servir. Et là, tout d'un coup, il est paralysé parce que dans sa tête, il doit gagner le match. Il se dit, mais c'est pas possible, ça serait complètement dingue et tout. Et là, c'est fini. Voilà la problématique. Elle est là. C'est qu'à un moment donné, c'est tellement énorme pour lui, d'où il vient, tu vois, qu'il n'a pas été élevé assez à ça, on va dire.
D'accord.
Tu vois ? Et ça, c'est très important.
Donc, la solution dans ce cas-là, c'est de se confronter le plus tôt possible à la performance, en tout cas plus poussée que ce que notre cerveau a la capacité. Que notre cerveau se croit capable de faire, en tout cas.
Oui, mais je ne peux pas dire ça parce que, tu vois, Steph, il était moins 2 à 20 ans, moins 30 à 21. Donc, tu peux te dire que c'est quand même énorme.
Oui. Mais chacun a sa mesure, en fait.
Voilà, mais en tous les cas, dans son fort intérieur, à un moment donné, bah, il n'a peut-être pas rêvé assez de pouvoir les battre, ces mecs-là, étant jeune. Peut-être. Je pense qu'en tous les cas, c'est important, ça. Voilà.
Un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui, je t'assure, fait la diff sur le long terme. Mets-nous un like dès maintenant si t'es sur YouTube, 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast et un commentaire sur les deux plateformes, c'est du fuel pour nous pousser à continuer de te régaler. Souviens-toi que t'as aussi accès à la 4e masterclass avec le prépa mental et sophrologue Gilles Tarraquois qui a travaillé pour la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Gilles nous fait entre autres une initiation à la sophro pour apprendre à te servir de la respiration dans le but de gagner en relâchement et en plaisir sur le cours. Je vous ai enfin mis en place une offre à l'année, c'est tout bénef, c'est en lien en description, allez on y retourne. Avant de basculer sur Gilles, est-ce que tu peux nous dire le plus beau moment que tu as vécu avec Steph et le moment le plus dur sur le circuit ?
Le moment le plus beau, c'est, je pense que c'est… Alors, il y a eu un moment exceptionnel, il jouait mais incroyablement sur herbe, il mettait des doudounes à tout le monde en 2018 à Wim. Les mecs… Je me rappelle qu'il y avait un mec qui était top 40 là, un Italien, je crois, qui lui a même proposé de l'argent tellement il avait joué grave en lui disant bah voilà, je te dois combien parce que il marchait sur l'eau, vraiment. Et pour moi, il a un jeu d'herbe de dingue, Steph, et tu vois. Et au tirage, il joue l'Argentin là, qui sert là, comment il s'appelle? Del Potro. Il joue Del Potro au premier tour.
Ouais.
Voilà, donc c'est dur à jouer, Del Potro, tu vois. Mais voilà, je pense que ce moment-là, pour moi, c'est… Je me rappelle la semaine, là, on faisait un travail de malade, c'était fabuleux. On était en osmose, on travaillait ensemble, on se parlait, c'était… Et justement, derrière, il fait demi en bourre, tu vois.
Et contre Del Potro, voilà. Il fait quoi?
Bon, il prend 3-7. Ça démarre mal, il est un peu nerveux… Il n'aimait pas trop ces jeux-là, tu vois. L'autre lui bricole sur le revers, je crois qu'il lui fait des chips de revers de mémoire, hein, je ne me souviens plus trop, mais voilà, c'est pas… Ouais, c'est pas top.
Ce que tu avais aimé particulièrement dans cette période, c'est votre fusion, communication et les résultats.
Je dirais pas fusion, ça ne veut rien dire fusion. C'est l'échange.
Votre osmose, voilà. Tu as dit votre osmose, ouais.
Ouais, j'ai dit l'osmose ?
Ouais.
Ouais, ok. Eh ben, ok, je suis pas sûr que j'ai dit ça, mais peut-être.
Hop là, Ronan, ralenti et retour en arrière.
On faisait un travail de malade, c'était fabuleux. On était en osmose, on travaillait ensemble, on se parlait, c'était…
Tu vois quand tu veux, hein ? Fais-moi confiance. Allez, on y retourne.
Mais en tous les cas, oui, c'est ça. En tous les cas, c'est cet échange. C'est okay. Lui partager ce qu'il ressentait. Et du coup, moi, je pouvais le challenger s'il n'y avait pas ça. Et là, effectivement, c'est… Bah, déjà, on rigole, il est 50e mondial, quoi. Tu vois, ouais. Il est 50e mondial. Il a 38 ans, je crois.
Et juste entre nous, pourquoi fusion, ça veut rien dire?
Ah, parce que je pense que lui, il a sa personnalité, et moi, j'ai la mienne, et il n'y a pas de fusion là-dedans.
Ok.
C'est chacun son job, il n'empêche qu'on se rejoint sur un truc pour partager, mais y a pas, on n'est pas collés ensemble. Il
Ouais.
a sa personnalité, j'ai la mienne, et point.
Ok.
Tu vois? Ça reste pour moi important. Moi, je suis là pour former des champions. Je ne suis pas là pour l'amener dans mon territoire et dire il est à moi. Et, tu vois, au contraire, moi, je forme pour qu'il devienne fort et point.
Yes.
Le moins bon, tu voulais?
Le plus dur, ouais.
Bah, le plus dur, c'est peut-être qu'il se blesse là quand il est 50e. Il part jouer la tournée sud-américaine là et. Et il se fait une pubalgie et du coup, moi, je ne vais pas à Indian Wells. Je le rejoins à Miami, mais on ne peut pas s'entraîner vraiment. Après, il fait Roland, on ne s'entraîne pas. Tu vois, c'est une fin un peu. Voilà, c'est un peu dommage. Voilà, à ce moment-là, on travaillait bien, c'était chouette. Et bon, c'est. Mais, tu vois, j'ai du mal à dire. Je ne fonctionne pas tellement comme ça, en fait.
Bon, on peut parler de Gilou, je pense, du coup. Qu'est-ce que tu as ressenti déjà quand un gars qui est 20e mondial, je crois que j'ai lu quelque part ou sur ton site, il témoigne qu'il te connaît depuis là, qu'il a l'âge de 10 ans. Donc tu es quelqu'un en qui il doit avoir confiance, j'imagine, au moment où il vient te chercher déjà. Mais toi, qu'est-ce que tu as ressenti qu'un mec qui soit 20 mondial vienne te chercher?
Déjà, il est 20 mondial, mais je le connais depuis tout petit, donc c'est pas comme si c'était un mec qui est 20 mondial. Qu'est-ce que je me dis? Bah, c'est lors d'un entraînement avec Steph à l'US. Et puis là, il commence à en parler. Et puis on se voit à Tokyo. On se voit à Tokyo, on fait un entraînement là-bas et on passe beaucoup de temps à discuter. Je vais voir un ou deux de ses matchs. Et puis voilà, on co commence à collaborer ensemble. Et c'est quoi ta question?
Ce que tu avais ressenti, ouais, tu peux enchaîner sur l'expérience que vous avez vécue ensemble, qui est de l'extérieur, je ne sais pas si elle est évidente, parce que c'est une période où il gagne, où il est un peu en dedans au niveau de la confiance, justement, donc il va chercher des clés. Ta collaboration avec Yann DeWitt, qu'est-ce que tu as pensé de lui? Et puis à un moment, il a tout envoyé un peu, il s'est séparé de tout son staff. Est-ce que tu peux nous partager du coup cette aventure avec Gilles?
Ouais, bah écoute, ça démarre très bien puisque en Australie, il joue très bien puisqu'il perd au troisième tour sur Raonic en faisant un gros match et là, il est très très bien. On change à ce moment-là son service parce qu'il y a un truc, il n'y a pas d'équilibre et il veut travailler. Il me dit, voilà, son lancer de balle, et voilà, donc on trouve une solution et on change son service. Et Yann est d'accord, et d'ailleurs, ça a été fabuleux avec Yann. Il m'a laissé la place. Voilà. Après, il part en Coupe Davis. C'est la dernière fois de mémoire qu'il joue en Coupe Davis parce qu'il joue vraiment bien. Il joue au Japon. Il rentre, et puis là, il est malade à moitié. On part, je sais plus où, en Hollande, là, faire un ATP 500. Puis là, ça se grippe un peu. Et puis moi, j'ai pas toute la place qu'il faut. Donc, je suis sur les entraînements, je suis avant les entraînements, je fais des réunions avec Yann, ça c'est vraiment génial. Euh,
Qu'est-ce que
mais en
génial en
même temps,
particulier?
bah, ces échanges, moi c'est une première. Tu vois, non, c'est une deuxième parce qu'en fait, on n'en a pas parlé, mais moi j'ai vécu un truc extraordinaire avec Thierry Tulane qui, quand il m'appelle pour travailler avec Corentin Moutet, et là j'ai adoré. On faisait des entretiens à trois, on était sur le terrain et Thierry me laissait faire. Ça a été une période pour moi exceptionnelle de ma carrière de coach.
C'est en quelle
Mais
année?
ça doit être en 2016, puisque cette année-là, j'entraîne en même temps Steph, en même temps Corentin, et puis à la fin, j'entraîne quasiment les trois. Donc il faut que je fasse un choix. Voilà. On fait un gros boulot avec Gilles, pour moi. Ça ne paye pas en termes de résultats, mais pour moi, on fait un gros boulot sur la prise de conscience. Mais comme il me dit, bah voilà, je viens de chercher à 34 ans et bah voilà, il n'y a pas beaucoup de place, tu vois, dans les entraînements pour moi. Il n'y a pas de moment. Voilà. Et puis du coup, moi, je suis un peu fatigué et Gilles me demande de partir à l'US. avant l'US à Winston-Salem. Je viens de finir avec Steph à Roland et je suis vraiment fatigué de cette année et demie-là. Et je lui dis, je ne suis pas prêt à y aller. Et voilà, c'est après qu'il décide de. Et je pense que c'était une bonne chose. Moi, je pense que je suis arrivé à un moment où Yann et Gilles étaient un peu en bout de course. J'ai fait un peu le tampon. Tu vois, c'était un moment un peu. Mais je ne remets rien en question du travail qu'on a fait. J'ai trouvé ça génial. Tu vois, j'ai eu Gilles au téléphone là il y a un mois. Voilà, c'est juste génial d'avoir collaboré avec un joueur de ce niveau-là. Tu vois, voilà, j'ai... Et puis d'entraîner les deux. Quoi. Il m'est arrivé de suivre le match de Steph, le match de Gilles, le double de Gilles, le double de Steph dans la même journée. Bon, ben voilà, tu veux, tu manges sur le terrain, c'est quand même. Tu vois, c'est ouf.
Est-ce que, comme les deux parlent énormément et sont quand même des fins tacticiens de ce sport et puis juste des passionnés, est-ce que tu te souviens d'une soirée en particulier où, je sais pas, vous avez parlé tennis jusqu'au bout de la nuit? Est-ce que tu pourrais nous faire vivre un souvenir un peu mémorable comme ça, ou une anecdote?
Bah, y a des moments où, oui, comme tu dis, les deux, je me souviens d'un match, on est à Madrid avec Steph, et puis je sais pas, tout d'un coup, il est minuit et il me dit ça va pas. Il jouait Gaël Monfils le lendemain, et là, nous, la partie à discuter, il était minuit, quoi, jusqu'à je sais pas quelle heure, hein, tu vois. Donc ça fait partie du truc. Et puis Gilles, voilà, c'est des discussions à n'en plus finir sur des sujets passionnants. Et comme tu dis, le plus compliqué, c'est de l'arrêter et de lui poser la question et de le faire réfléchir et d'en reparler. Mais c'est quand même exceptionnel d'avoir collaboré avec deux champions comme ça. Moi, je les remercierai tous les jours. Tu vois, d'où je viens et de finir ma carrière de coach de tennis à ce niveau-là, c'est quand même exceptionnel. Voilà.
Elle est pas finie ta carrière, parce que là, tu es avec Corentin Moutet, c'est ça?
Ah non, moi, je suis pas avec Corentin Moutet. Corentin Moutet, c'était en 2016.
Okay.
Ça s'est terminé en fin. Non. Moi, j'ai fait avec Corentin. À un moment donné, il y avait le choix et du coup, j'ai choisi de partir avec Steph et Gilles.
Ouais.
Parce qu'ils jouaient tous les deux et que c'était plus facile pour moi. Mais non, j'entraîne plus coach. J'entraîne Tristan 4 semaines par an. Mais aujourd'hui, ma carrière de coach de tennis, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Et aujourd'hui, je suis plus dans la transmission pour aider justement des coachs à performer. Et moi, ma carrière de coach, elle continue dans la voile. Et dans le golf, dans le tennis, j'ai fait le tour. J'ai écrit 2 ouvrages, 3 avec l'ouvrage qu'on a écrit avec des enseignants pendant le confinement. Donc voilà, et je pense que j'en écrirai un jour.
Parce que quoi, t'es fatigué du tennis, ou c'est quoi le constat?
Est-ce que je suis fatigué du tennis?
Pourquoi avoir fait un trait sur un peu le circuit, quoi?
Parce que aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Un, j'ai pas de demande. Deux, les demandes que je vais avoir, ça va être des gens qui vont être forcément en dessous de la 20e et de la 50e. Ce chemin-là, je l'ai fait, je le connais. Moi, j'avais pris Gilles parce qu'il y avait l'idée de gagner un grand chelem, ou en tous les cas de gagner un Master 1000, et c'était ça qui m'excitait. Moi, je croyais en Gilles, et moi, je pense qu'il aurait pu être numéro 1 mondial, et c'est pour ça que je suis allé dans l'aventure. Là, aujourd'hui… Déjà, des joueurs, il n'y en a plus beaucoup. Et puis, j'ai connu le plus haut niveau, j'ai connu des budgets conséquents pour être dans les meilleures conditions. Je ne sais pas si j'ai envie de repartir. Là, je le fais avec Titi parce que je forme en même temps son papa. Et il a 13 ans et je n'ai jamais fait ça, cet accompagnement. Mais, et je le fais, je te dis, 4 semaines par an. Mais moi, aujourd'hui, mon rêve, c'est de faire gagner un Vendée Globe à un skipper, ou voilà, c'est ça mon rêve aujourd'hui.
Allez, juste pour revenir sur Corentin Moutet, qui était encore plus volcanique à l'époque, est-ce que tu peux nous partager, toi, comment tu l'as pris quand tu l'as eu, ou est-ce que tu as eu la sensation de l'emmener, et peut-être un souvenir ou deux pour nous imaginer le tout?
Écoute, moi, c'est un moment assez court de ma carrière de coach, mais en même temps, j'ai plein de très très bons souvenirs de moments extraordinaires. Voilà. En fait, le premier, c'est notre rencontre. C'est-à-dire que Thierry nous invite. C'était la veille de Roland Garros Junior. Co est junior première année ou deuxième année ? Première année. Et on se retrouve au CNE avec Co, Thierry Tulane et moi. Et donc, moi, mon job, c'est de poser des questions. Le job de Co, c'est d'en poser aussi. C'est de voir si ça va coller, tout simplement. Puis, à un moment donné, ça fait 2h30 qu'on y est. Et là, Thierry se lève et dit, bon, bah, les gars, on se retrouve demain. Okay. Et puis après, je dis à Co, il était, je sais pas quelle heure, il était 18h. Tu vois, on est tous les deux au CNE et on va dans la salle d'époxy. Tu vois ce que c'est c'est une salle, tu peux mettre de l'altitude, tu peux mettre de l'oxygène, etc. Okay. Pour faire croire que tu es en altitude. Ouais. Bref, on va dans cette salle-là. Et puis, je ne sais plus pourquoi. Soit on fait une séance de sophro, soit Co, il s'allonge et on travaille de la respiration. Un truc comme ça. Et on se connaissait à peine avec Co, tu vois. Ça faisait 3 heures qu'on était en train de discuter ensemble. Et puis, tout d'un coup, il se lève, il me dit, Ronan, j'ai une idée. Donc, il a Roland Garros Junior sur terre le lendemain. On est au CNE sur dur. Il me dit, moi, ça fait je ne sais pas combien de temps que je n'ai pas touché une raquette. Il me dit, écoute, on va faire un match ensemble et je t'explique les règles. Et là, je me dis, mais où on est ? On est tous les deux au CNE, il n'y a plus personne. Puis, il me dit, bouge pas, je vais, je ne sais pas, aux toilettes. Et puis, il voit un jeune black qui s'entraîne à l'époque il va peut-être se reconnaître. Il s'entraîne à Poitiers. Et il est là, je ne sais pas ce qu'il branle le mec, mais il est là. Et Co, il a le pack, il dit, bah, tiens, on va jouer tous les deux sur le terrain, on va faire un set ensemble. Moi, je ne connaissais pas Co, je n'avais jamais vu. Je lui dis, bah, écoute, est-ce que tu peux m'expliquer les règles du jeu ? Tu veux que je fasse quoi ? Est-ce que j'interviens ? Qu'est-ce que tu veux faire et tout ? Et puis, il me dit, non, on va discuter au changement de côté tous les deux. Et puis, je veux me lâcher. Et puis, il fait son set comme ça. Et puis, à la fin, il me dit, bon, ben voilà, on se retrouve demain à Roland. Mais comme ça, truc de qui vient de nulle part, tu vois.
Ouais.
Et puis, il commence et l'échauffement, il met une balle sur le périph' au bout de 2 minutes. Et je dis, bon, ben voilà, on y est. Et je crois qu'il passe 1 ou 2 tours. C'est costaud et tout. Et puis, il joue un mec, un Argentin, je crois, il me semble, le matin. Et puis l'après-midi, il jouait Blancano en quart ou en huitième, je ne sais plus exactement. Et puis alors, évidemment, il est en colère parce que Blancano n'a pas joué de match le matin et lui a déjà un match dans les pattes. Donc, si tu veux, ça l'énerve au plus haut point. Et puis, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il me dit « Tiens, viens, Ronan, on va aller dans la salle de kiné. » Il trouve une salle de kiné sous le Lenglen, là. Et puis, il me dit, on va s'installer là pour discuter et tout. Puis, on discute. Puis, à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, on en arrive à parler de la respiration. Il me dit, je vais faire de la respiration. Je lui dis, tu veux qu'on éteigne la lumière ? Il me dit oui. Donc, nous voilà dans la salle. Lui, il est allongé sur la table. Il fait de la respiration. Et puis, tout d'un coup, il se lève. Il me dit, c'est bon. Hyper calme. Et là, il démarre le match contre Geoffroy en trombe. Je ne sais plus, il mène 4-1 en 2 secondes et demie. Et voilà, et c'était avec Co, ça a été magique. Et Co, il passait un tour en futur à ce moment-là. Et à un moment, il part tout seul à l'autre bout de la Russie ou je ne sais plus où. Bon, bref, il part faire 2 tournois. Et il part tout seul à 17 ans, faire le premier. Et il gagne le futur. Donc, on s'appelle, on s'envoie des messages et tout avant la finale. Il me dit alors… qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout, on rigole. Parce qu'en fait, moi, je ne lui donnais jamais de conseils. Et il gagne le tournoi et après, Thierry va le rejoindre et il gagne le deuxième futur. Donc, en fait, il s'envoie 2 futurs en 2 semaines alors que jusqu'à présent, il passait un tour. Voilà, donc là, c'est magique. Et c'est… voilà.
Et tu disais que quand tu as collaboré avec Gilles, toi, tu voulais aller taper la première place mondiale, même si à 34 piges, putain, c'était quand même hyper ambitieux. Tu t'es pas dit…
Non, j'ai pas dit que je voulais aller taper la première place mondiale. J'ai dit que moi, je pensais que Gilles Simon aurait pu être numéro mondial quand on a travaillé avec Gilles, c'était pour aller le plus loin possible en grand chelem, faire une demi, puisqu'il a fait une fois quart, et gagner un ATP 1000. Voilà, c'est ça. Non, j'ai...
Ouais. Ok. Mais du coup, à cette époque-là, tu t'es pas dit, putain, je tiens peut-être mon projet, j'ai peut-être la pépite avec Corentin qui peut aller plus haut que les autres, en tout cas.
Bah, ça a été un dilemme pour moi. Voilà, ça a été un choix et tu as des choix à faire dans la vie. Moi, j'ai fait celui-là et je le regrette. Je le regrette pas aujourd'hui par rapport à ce que j'ai fait de ma carrière. Et je regrette parce que j'aurais aimé connaître Co plus tôt et l'accompagner. Ça, c'est une certitude. J'ai adoré travailler avec ce mec-là. Il a découvert ce que c'était la pédagogie participative et ça a matché, mais grave, tous les deux. Donc, ça a été. C'est un mec que j'adore. Voilà.
Pédagogie. J'adore. Pédagogie participative, ce que tu disais aussi avec Steph, c'est cet échange permanent, ce va-et-vient, cette communication. C'est ça ?
Ouais, c'est de dire que le coach, en fait, il ne sait pas. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à savoir qui j'étais et je n'ai pas la prétention aujourd'hui de dire j'entraîne un mec top 20, j'entraîne un mec 50, j'entraîne un mec 200. Je n'ai jamais été à ces niveaux-là. Moi, je ne peux rien leur amener là-dessus. Ce que je peux leur amener, c'est de découvrir qui ils sont. Voilà, et de ceux qui ils sont va amener la performance. Donc, c'est, moi, mon job, il est là. Et quand je disais que j'avais changé de paradigme en 96, là, c'était le début de notre conversation, bah, c'est ça. Quand j'ai secoué très fort et que c'est que je passais d'une pédagogie directive, hein, qui est quand même encore d'actualité dans les clubs, pour beaucoup en tous les cas, à où c'est moi qui sais, l'élève ne sait pas, il m'écoute et je le juge. À une pédagogie participative où finalement, le joueur, il sait. Et même s'il ne sait pas, je vais l'aider à mettre des mots précis et à trouver. Parce qu'une fois qu'il trouve, son estime grandit, ça veut dire qu'il a encore envie d'aller monter sur la montagne. Mmh. Voilà. Et moi, c'est ça mon job, de le pousser à réfléchir. Et finalement, un champion, c'est un mec curieux avant tout. Ce n'est pas un mec qui tape bien dans la balle. Il y en a des tonnes qui tapent bien dans la balle. C'est un mec curieux et qui avance, qui cherche et qui trouve. Ah, c'est ça qui est chouette.
J'ai peut-être une réponse à la question que j'avais après, dans la mesure où Thierry Tulane, qui est à la Fédé depuis toujours, est venu te chercher, a priori, pour Corentin. Ta méthode, comment est-ce qu'elle est acceptée ? Pardon, ta pédagogie, excuse-moi. Ton concept, bordel de merde.
Voilà.
Comment est-ce qu'elle est acceptée dans le milieu du tennis par la Fédé? Parce que, enfin, est-ce qu'elle a été critiquée? Est-ce qu'aujourd'hui elle est plus acceptée? Enfin, où est-ce que ça en est?
Moi, j'ai pas envie de débattre de ça. Honnêtement, c'est un faux sujet. Moi, aujourd'hui, je fais mon chemin. Moi, pendant des années, j'ai eu envie d'échanger. J'ai eu envie de. Là, aujourd'hui, c'est pas que j'ai plus envie.
Ouais.
C'est que chacun son chemin. Moi, j'ai le mien. Je fais mon chemin. J'aide le tennis français. Aujourd'hui, je me suis lancé dans un vrai challenge d'aider les coachs à se former, parce qu'il n'y a pas de formation continue en France, en tous les cas sur ce sujet qui de la performance. Et donc, j'aide les joueurs. Je forme aujourd'hui plus de 150 coachs par an. J'en ai formé presque 500. Mon bonheur, il est là.
Ouais.
Tu vois, j'attends pas et j'ai jamais attendu qu'on me dise ou qu'on me donne un bon point ou une belle image. Je suis passé à autre chose.
Okay.
Je fais mon chemin. Et puis, il y a des gens que ça intéresse qui viennent de milieux différents. Tu vois, aujourd'hui, j'ai des avocats, des médecins de tout horizon qui viennent chercher la performance chez moi. Donc, ça veut dire que ça intéresse de plus en plus de monde, en tous les cas, ces sujets.
Les avocats, les médecins, ils veulent se former à quoi quand ils viennent te chercher ?
Justement, à la performance, parce que eux, dans leur métier, ont besoin de sont stressés ou cherchent aussi à mieux comprendre comment se passe la performance.
Okay.
Et moi, aujourd'hui, dans mes formations, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Je ne parle pas de mental, parce que pour moi,
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mental, c'est la préparation mentale, c'est préparer à je sais pas quoi. Moi, je parle de performance parce que j'entends tout et son contraire dans la préparation mentale et je me méfie. Il y a des gens qui se disent préparateur mental en ayant fait 5 jours sur Internet. Donc, si tu veux, voilà, aujourd'hui, avant d'être préparateur mental, il y a un travail à faire sur soi. Et donc, moi, les gens que je forme, c'est eux pour la performance, mais avant tout pour eux. Pour comprendre ce qui se passe en eux. En fait, c'est ça mon enjeu à moi aujourd'hui.
Avant de passer aux questions de fin, est-ce que tu as des anecdotes vécues avec le Big Three, le top 3, Rafa, Djoko et Federer? Est-ce que tu as des anecdotes vécues avec eux ou si tu n'as rien forcément vécu de particulier avec eux, est-ce que tu peux nous partager ce que tu penses d'eux et de la trace qu'ils laissent dans l'histoire de ce sport qui nous passionne.
Alors, je vais commencer par Federer, parce qu'on a vécu un truc avec Steph, c'était quelques jours avant le tournoi en Australie, en 2018, l'année où il gagne, hein, je crois, 2017. Où il revient. Et 2017. Ah ben alors, c'est 2017. On s'entraîne avec lui à Melbourne en court couvert. Et en fait, tout le monde se pose la question comment Federer va faire pour battre Nadal puisqu'il bloque sur son vert et son coup droit croisé là et qui arrive sur son vert et il est emmerdé là-dessus tout le temps. Et là, on voit un truc, on se regarde avec Steph, on se dit mais c'est pas possible. Federer, il fait que des demi-volées en revers. Des fois, ça va dans le mur et tout et il rigole. Et là, on se dit mais là, moi, je parle beaucoup de détachement, tu vois, c'est quand même un mot fort pour moi. Et là, je vois le mec, il fait confiance à sa raquette, il fait confiance à la balle qui sort de la raquette. Bref, je vois un truc que je n'ai jamais vu nulle part de ma vie, dont je rêve. Voilà le type de joueur que je rêve un jour d'entraîner, de plus se poser de questions, de lâcher le coup et de se dire j'ai la force mentale pour me dire bah voilà, elle va être bonne ou faute, mais je m'en fous. Et quand je le vois faire la finale qu'il fait sur Rafa, je me dis, bah voilà, on y est. Ces prises de balles tôt, là, en demi-volée, bah, il les a fait contre Rafa, quoi. Donc là, je me dis, c'est incroyable. Pour parler de Djoko, moi, je l'ai vu commencer sa carrière à 18 ans en Serbie, en futur. On était là-bas avec Steph. Je pense qu'il a amené, et de loin pour moi, bah, tout le côté de travail, de méditation, de visualisation. J'ai entendu dire qu'à 7 ans, il commençait déjà à visualiser, il se voyait déjà gagner Wimbledon, qu'il travaillait ses émotions à 7 ans. Dans la forêt, exactement. Je pense que lui, il a amené ça à… Moi, je pense que c'est un exemple pour moi. Parce que quand tu prends son jeu séparément, il n'y a pas un coup qui fait mal, à part le retour qui est exceptionnel. Mais le reste… Il n'y a rien de… Il n'y a pas un mec du top 100 qui a moins que lui, on va dire, pour moi. Il ne sert pas… il est précis, certes, mais il y en a d'autres qui sont précis. Voilà. Et je trouve qu'avec ce jeu-là, il a été capable de… Et je suis déçu pour lui qu'il n'ait pas fait le grand chelem. Je trouve que c'est énorme, tout simplement. Voilà, j'ai un énorme respect pour ce mec-là parce qu'il a poussé très, très loin. Et je me dis… Il y a un mec comme Federer avec ce travail. Je ne dis pas que Federer ne l'a pas fait. Je ne peux pas me permettre de dire ça. Je ne suis pas assez proche de lui. Mais en tous les cas, je vois le tennis qu'a Djoko et je me dis que c'est complètement dingue. Voilà. Donc ça, je suis admiratif au plus haut point. Et je me dis qu'il y a de la place pour tout le monde, tu vois. Parce que voilà, pour moi, il y a vraiment de la place. En travaillant comme ça, il y a vraiment de la place pour aller chercher… des rêves. Et puis Nadal, parce que je trouve que c'est fort en étant numéro un mondial, d'avoir fait évoluer son jeu. Souvent, beaucoup de joueurs ou beaucoup de sportifs attendent, si tu veux, de perdre avant de changer ou d'être dans le mur pour changer. L'être humain, il est un peu comme ça. Il attend la sanction. Lui, il n'a jamais attendu la sanction. Gilles me disait, quand il jouait Nadal à l'entraînement il y a quelques années, il me disait, c'est fou, Nadal à l'entraînement, il ne met que des mines. Il en met partout et ça nous énerve tous parce que dès que tu le joues en match, il ne joue plus du tout comme ça. Donc en fait, je pense qu'il y avait un vrai projet d'amélioration sans cesse. Et donc, l'entraînement, ça servait à ça. Et c'était clair. Et je trouve que cette vision qu'ils ont eue tous les deux là, parce que je ne peux pas les dissocier de son coach, je pense que cette vision là, c'est très important pour former le joueur de demain. Je pense qu'il faut vraiment avoir une vision. C'est quoi le tennis de demain? C'est un Medvedev qui sert première et seconde à 200. Je pense probablement qu'on va se diriger vers ça. En tous les cas, c'est ce que je vois. Il y a un moment, Djoko, il a montré une voie. Je l'ai vu faire des volées liftées à mi-court. Je pense qu'il y a un moment donné, on va y venir. Voilà. Mais en tous les cas, le coach et le joueur qui va gagner demain, c'est le mec qui aura un coup d'avance. Voilà, c'est clair. Et je pense que Daniil, avec Savara, ils ont un coup d'avance aussi. Je pense qu'ils ont un coup d'avance parce qu'il a commencé très tôt à travailler ce qui se passait à l'intérieur de lui. Et je pense qu'ils ne sont pas nombreux, au final, à l'avoir fait. Et ils ne sont pas nombreux à le faire encore aujourd'hui. Donc, ouais, je pense que c'est intéressant de voir. Je suis toujours curieux. Nous, je pense qu'on a eu un coup d'avance, mais on a commencé trop tard. Mais je pense qu'on avait un coup d'avance aussi. Voilà.
Est-ce que c'est Daniil qui fait le plus palpiter ton cœur aujourd'hui sur la jeune génération?
Il n'y en a pas un plus que l'autre. Sinner, il m'impressionne par le non-respect qu'il a des mecs. Je pense que c'était marrant parce que Daniil, il avait joué Steph à Moscou et Steph, il en prenait une bonne. Et je crois qu'il avait pris 6-0 au premier. Et l'autre, il était hyper calme et tout d'un coup, il a pété les plombs. C'est peut-être la dernière fois que je le vois péter. Mais à l'époque, quand il jouait très vite, très, très vite, Daniil. Il devait être très, très nerveux et il accélérait tout ce qui bouge. Là, aujourd'hui, c'est clairement, ça a changé. Mais je pense que ce qui m'intéresse dans les générations futures, je pense qu'il y a quelques années, le tennis, si je prends l'exemple de la France, il y avait, fallait se protéger, en gros. Il y avait une forme de protection. Finalement, la plupart des jeunes qui sortaient des écoles, etc., ils voulaient quoi? Ils voulaient avoir un CDI, ils voulaient, etc., tu vois? Et dans le tennis, finalement, et je pense que c'est pour ça qu'on était bon à l'époque, il fallait jouer la diag, il fallait jouer la sécurité. Puis quand tu avais la balle à mi-court, alors il fallait envoyer… Voilà. Et puis, est arrivée une bande de jeunes, là, qui, eux… Alors, je pense qu'il y a eu les Kyrgios, il y a eu les… je ne sais plus quel joueur australien là aussi qui est complètement Tomic qui ont commencé Dolgopolov. Je pense que c'était une transition un peu où les mecs ils ont commencé à ouvrir le jeu tout le temps n'importe où et je pense que Steph a fait partie de cette génération. Je pense qu'il en mettait partout, Steph, de partout, il pouvait jouer toutes les zones et nous je pense que c'était ça notre coup d'avance. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui le monde c'est un monde d'aventuriers. Je pense qu'il y a tout à créer. Je discutais avec un ancien d'HEC que j'ai vu dernièrement et il me disait, bah, tu sais que maintenant, les jeunes qui sortent d'HEC, 60% veulent créer leur business ou leur start-up. Et moi, quand j'y étais, ils voulaient tous être en CDI ou fonctionnaire. En fait, c'était important, le CDI. Donc, je vois le paradigme qui a changé. Et forcément, le tennis, il profite aussi de tout ça. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est d'imaginer ça et de me dire c'est quoi le tennis de demain. Parce que justement, il y a eu les chercheurs d'or aux États-Unis. Ben, je pense que là, le tennis, il y a tout à réinventer. Il y a tout à créer pour moi. Oui, il y a un filet. Oui, il y a des lignes. Mais aujourd'hui, voilà, Medvedev, il sert à 200 secondes. Sinner, il ne respecte pas Nadal quand il joue. Il lui rentre dedans comme personne ne l'avait jamais fait. Je ne sais pas si tu as vu ce match à Roland, pas celui-là, mais il a joué deux fois. Mais la première fois, quand il joue en indoor, là, en indoor, quand il fait froid et que c'est en octobre, mais c'est incroyable. Je n'ai jamais vu un jeune de ce âge-là. Le mec, il est en face, il est quoi? Il est numéro 1 encore, peut-être, ou numéro 2, peut-être, Nadal, à ce moment-là. Mais moi, je trouve ça beau. Avant, les mecs avaient du respect. Lui, il n'a pas de respect. Mais tu vois, dans le respect dans le bon sens du terme, c'est que, OK, il a Nadal en face, mais il va jouer. Il va jouer son tennis. Mmh. Et ça, je trouve que c'est très, très beau.
Incroyable.
Tu vois, c'est cette culture. Je crois qu'il faut, casser les codes. Et moi, c'est ce que je fais en formation aujourd'hui, à aider les coachs les joueurs à imaginer le tennis de demain et à s'enlever les cadres. Quand je vois qu'aujourd'hui, on en est encore à faire des gammes, mais je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas.
Tu remplaces par quoi, toi, les gammes?
Mais je n'ai pas envie de répondre à cette question par… Mais en tous les cas, aujourd'hui, il y a de la créativité tout de suite. Donc, même une gamme, il peut y avoir de la créativité parce que sur une gamme, il n'y a jamais la même vitesse, jamais la même longueur, jamais la même vitesse. Mmh. Et donc, il faut amener du jeu dans tout ça, en tous les cas. Mmh. Il n'y a pas de répétition. C'est ça que je veux dire. Alors, il y en a qui vont me tomber dessus. Bien sûr qu'il y a de la répétition. Mais aujourd'hui, il y a surtout de la créativité. C'est pour ça que j'adore Benoît Paire. Voilà, je pense que Benoît Paire, c'est un extraterrestre. Et je pense qu'il a inventé ça aussi, lui. Il a inventé quelque chose. Parce qu'à un moment donné, il a cru en lui, il s'est entraîné comme il voulait. Et c'est sûr qu'on ne l'aime pas. Mais moi, j'adore. Il a créé quelque chose.
Tu ne veux pas lui apporter la respiration à Benny?
J'ai rien à lui apporter. Il a tout apporté. Le mec a été 18e mondial. Voilà. Je ne sais même pas s'il a fait un footing dans sa vie. Voilà. Et ça, c'est quand même dingue. Et le mec s'entraîne des fois une heure, une demi-heure. Et sauf que le mec, il sait ce qu'il fait, il veut pas être pollué. Et puis ses entraîneurs, il n'en a pas eu beaucoup.
Tu m'étonnes.
Comme par hasard. Parce que pour entraîner un mec comme ça, faut être résilient, faut comprendre, faut pas juger. Et voilà. Et c'est des mecs comme ça qui sont là-haut. Tu vois, Manarino, il a aussi inventé le jeu. C'est fabuleux, tu vois.
Qu'est-ce que tu trouves aujourd'hui dans le golf et la voile qui t'excite peut-être davantage, j'ai l'impression?
Est-ce que ça m'excite davantage? Déjà, là, j'ai eu la chance d'accompagner Armel sur les deux dernières années.
Armel comment?
Armel Tripon. Okay. Armel Tripon, voilà, je suis depuis 2007.
Qui est l'équivalent de qui dans le top 100 du tennis, quoi, qu'on puisse comprendre?
Tu veux dire en termes de niveau de jeu?
Ouais.
Ou en termes de personnalité?
Les deux.
Il a gagné la Route du Rhum. C'est un mec qui pèse.
C'est comme un grand chelem?
Ah non. Non, non, parce qu'en plus, mais il est dans le top 50.
La Route du Rhum, c'est quoi? C'est plus un Masters 1000 ou 500? ATP 500?
Lui, il a couru sur un bateau avec… on dirait que c'est entre 250 et 500. Okay. J'ai du mal à dire, mais ouais, ça reste un engagement aussi. C'est un ATP 500 parce que faut être funambule pour être sur ces bateaux-là. Donc, à tout moment, il peut chavirer le truc. Donc, ouais. Et moi, j'ai eu la chance d'accompagner. Donc, j'accompagne. Moi, je faisais à un moment donné, j'allais en Australie avec Steph. Je rentrais, j'allais sur l'eau avec Armel. Dans les tempêtes, on prenait 43 nœuds autour de Groix. C'était complètement dingue. Après j'allais sur le terrain avec Steph, je revenais, voilà.
Et donc, génial, toi, en termes de diversité, c'est exceptionnel.
Ah oui, bien sûr.
Et tu ne nous as pas dit la personnalité d'Armel sur le circuit tennis, on pourrait le comparer à qui?
Moi je dirais qu'on pourrait le comparer à un Benoît Paire, sauf que il arrive à garder son calme, mais c'est un artiste. Toi, il a fait évoluer le… Il a couru sur un bateau de nouvelle génération. Ils ont pris des risques architecturaux. Il a poussé à ce que ça se fasse. Donc, il avait un nouveau bateau. Et moi, j'ai couru avec lui. On a fait une course ensemble. J'ai navigué très souvent avec lui sur une Formule 1.
C'est un bateau qui coûte combien?
C'est un bateau qui vaut 5-6 millions.
Wow. Putain, mais pour toi, c'est… comme tu disais tout à l'heure, c'est rêver éveillé, quoi. C'est incroyable.
Mais bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Tu vois, c'est... après, je l'accompagne sur le Vendée et j'espère qu'il va retrouver des ronds pour repartir sur un autre tour. Et puis, il y a peut-être une autre surprise qui va m'arriver, donc, mais je ne peux pas en parler parce qu'il n'y a rien de fait. Donc, voilà, oui, c'est un rêve éveillé.
Et dans voilà. Le golf, tu as accompagné des joueurs pros aussi ?
Ouais, j'ai accompagné Franck Aumônier, ouais. Qui jouait le Challenge Tour pendant un an et demi, okay. Une fois en compétition. Et puis après, je suis parti avec Patrick Mouratoglou, donc j'ai été obligé d'arrêter. Mais ouais, c'était un moment exceptionnel.
Toi, tu jouais combien à ton meilleur au golf ?
Oh, je j'ai pas fait de compétition. J'ai dû faire une fois une compétition, mais j'ai même pas, non, mais je sais à peine jouer.
Ah ouais, putain, mais c'est fou.
Non, mais je sais à peine jouer. Je tape dans la balle. Ouais. Mais là aujourd'hui, j'accompagne un jeune joueur, j'allais dire un joueur qui a Fred Grosset-Grange, qui a 56 ans, et je le prépare pour les cartes européennes fin janvier au Portugal.
Et donc là, pareil, tu l'accompagnes sur la performance grâce au détachement.
Oh là là, c'est un petit résumé. Hein. Non, il y a un vrai travail. Oh là là, c'est un vrai travail. Il n'y a pas que le détachement.
Que tu disais tout à l'heure sur le joueur de tennis, apprendre à le connaître pour que lui se connaisse mieux et lui apporter des clés. Au final, tu reproduis ça, que ce soit dans la voile, le golf… le chirurgien, l'artiste peintre, peu importe.
Mais tu sais, Max, le point commun de tous ces champions, c'est qu'à un moment donné, on veut nous faire croire qu'avec de l'intelligence et de comprendre intellectuellement des choses, je vais y arriver. Donc, il y a plein de gens qui comprennent intellectuellement comment ça se passe, etc., les routines, les phases mûres, voilà, et tout le monde comprend tout ça. Et en fait, le plus dur… Je vais t'avouer un truc important. Le plus dur, c'est de se laisser aller, c'est de s'abandonner au moment où je joue. C'est ça le plus dur. C'est de passer du on au off. C'est à un moment donné être capable intellectuellement de se parler et de sauter dans le vide. Et ça, il y a très peu de monde à pouvoir le faire. Et c'est mon grand combat, si tu veux, contre la préparation mentale. On veut faire croire à des gens que en faisant ça, ça et ça, ils vont tout fracasser. Mais c'est du mensonge. C'est pas vrai. Ça serait trop facile. Et moi, là, le bouquin que je vais écrire, que je suis en train d'écrire en ce moment avec Thomas Giraud, c'est sur la dualité de la performance. Parce que c'est vraiment ça, la beauté de la performance, c'est la dualité. C'est qu'il n'y a pas… Si je vais sur le côté de l'intellect, alors, il faut que je sois capable de me laisser aller de l'autre côté. Et moi, je rencontre trop de gens qui musclent le côté intellectuel, mais qui n'arrivent pas. Le fameux lâcher prise dont tout le monde parle, c'est très compliqué. Parce qu'il faut s'abandonner. Et s'abandonner, ce n'est pas rien. Là, j'étais sur le terrain tout à l'heure avec Titi. J'étais avec Fred Grosset-Grange l'autre jour. Et ben, à un moment donné, tu as ton club en main. Tu visualises des choses et tout, puis tu t'approches devant la balle et tu joues sans penser à rien, eh ben c'est très compliqué. Parce que ton cerveau, il ne te laisse pas faire ça. Et c'est tout l'enjeu, finalement. C'est toute la difficulté de la discipline, du niveau et de la performance. Et moi, je vois trop de gens, aujourd'hui, la préparation mentale, c'est en train de prendre un essor de dingue. Ouais. On fait croire à des gens et moi, je dis attention. Ouais, moi, je dis attention. C'est pas aussi simple que ça.
Alors, juste pour terminer avec les questions de fin, est-ce que tu nous as parlé du livre de Timothy Galloway ? Est-ce que c'est le livre qui a le plus marqué ta vie ? Et si c'est pas celui-là, est-ce qu'il y en a un autre ?
Alors, en ce moment, celui qui a été, c'est le livre que je cherchais. C'est un livre sur le yoga. Elle s'appelle Bernadette de Gasquet. C'est donc une dame qui a 73 ans de mémoire aujourd'hui. Qui a été médecin, qui est prof de yoga depuis très longtemps. Et elle vient d'écrire un bouquin qu'elle a fait en collaboration avec Teddy Riner, dont elle s'occupe un peu. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'elle traite la posture. Et la posture, c'est magique, parce qu'entre un dos placé comme ça, voilà, elle parle d'étirement vers le haut, elle parle de voilà. Donc, en fait, ce qui est passionnant dans le haut niveau, c'est que c'est vraiment des petites choses. Et là, c'est un condensé de tout ce dont je. Toutes mes expériences, toutes mes recherches, elles sont dans ce bouquin. Donc, je conseille à ceux qui veulent faire de la performance. Et elle parle notamment de tout ce qui est, comment on appelle ça, gainage. Alors, nous, on entend le gainage, allez, il faut tenir. Mais en fait, il y a des dos qui. Elle parle beaucoup du périnée, par exemple. Voilà, elle parle qu'il y a du gainage aussi pour le port de la tête. Elle parle du gainage des poignets, elle parle du gainage des genoux. Voilà, c'est fabuleux. Voilà.
Wow.
Mais oui. Et quand on veut faire du haut niveau, finalement, oui, il y a du mental, mais le mental, j'allais dire, il est partout et il est tout le temps. Quand je fais de l'entraînement physique, il y a du mental. Quand je fais de la technique, il y a du mental. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je dis que le premier préparateur mental, c'est le coach. Voilà, tout simplement. Encore une fois, ça n'engage que moi, hein, ce que je dis. Hein.
Est-ce qu'il y a un film que tu recommandes, un seul ?
Mon capitaine, là, tu le vois.
Forrest Gump.
Non. C'est comment ça s'appelle ?
Avec qui ?
Oh, je ne sais plus le nom. Merde. Le cercle des poètes disparus.
Ah, intéressant. Pourquoi ?
Parce que j'adore cette idée de remettre en question le chef. J'adore cette idée que en commun, on peut trouver des idées. J'adore cette idée de remettre en question ce leadership ou ce descendant. Je trouve qu'on souffre de ça. Moi, je trouve que l'horizontalité, ça amène tellement de belles choses. Voilà, je trouve que c'est beau à un moment donné. C'est pas de se rebeller contre quelque chose, c'est de se dire parlons-nous. Oui, il y a un chef, mais le chef, il vaut ce qu'il vaut. Et justement, il leur demande d'être eux-mêmes. Et voilà, moi, c'est ce que je demande aux joueurs, d'être eux-mêmes finalement. Pour performer, il faut être soi-même. Il ne faut pas vouloir être un autre. Il faut réinventer le monde. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Il faut réinventer le monde. Et comme tu fais toi, tu réinventes quelque chose. Et c'est pour ça que je suis là. Autrement, je ne serais pas là. Tu réinventes quelque chose. Il faut des gens comme toi.
Qu'est-ce que je réinvente selon toi ?
Eh bien, tu donnes la parole, tu des gens qui sont qui performent dans leur domaine et tu essaies de savoir ce qu'ils font. Voilà, je trouve que c'est quand même chouette. Moi, j'aurais adoré qu'il y ait un mec en dehors d'un système qui m'explique ce qu'il a fait, comment il fait. J'adore écouter Sam, j'adore écouter Fred, j'adore écouter tout le monde.
C'est bon ça.
J'adore ça. Et je pense que. Voilà, quand tu as Steph qui parle de sa carrière, je trouve que voilà, y a trop de conventionnistes, si tu veux. C'est trop haut à un moment donné, plus personne parle. Et je pense qu'il faut libérer la parole.
D'ailleurs, c'est ouf, parce que tu m'as suggéré une super idée, c'est de faire un épisode à trois avec Steph, de débriefer peut-être de moments forts de sa carrière. Je lui ai écrit hier, il m'a répondu tout à l'heure en me disant... Désolé, pour le moment, la dernière interview, je ne fais plus d'interview sur ma carrière. La dernière, c'était avec toi. J'adore, j'apprécie vraiment ton boulot. Je trouve que tu le fais avec passion, c'est top. Pour le moment, non merci. Donc, un bon timing de l'avoir fait à ce moment-là. Mais merci pour l'idée. J'aurais adoré qu'on le fasse tous les trois, mais bon, peut-être plus tard, quand il sera prêt, qui sait. Le concert le plus ouf auquel tu es assisté ?
Imouvrini, à Bercy.
Pas vu de la semaine, cela.
un groupe corse que ça me donne une force incroyable. J'adore ce pub, j'adore ce. Voilà, et puis j'adore cette musique, ça me transcende et ça me.
C'est
donne
qu'ils mettent leurs mains comme ça, là ?
Ouais, ils mettent leurs mains comme ça, mais pas que. Mais oui. Ouais.
C'est
énorme. Ouais.
Ah ouais, improbable.
Il y a ça, et puis il y a de la musique bretonne avec des tambours, des machins, et ça me fait vibrer aussi, toi. Mais bon, j'aurais pu te donner d'autres noms, mais voilà, c'est ceux qui viennent et ça me fait marrer surtout de te le dire.
De toutes les questions que je t'ai posées, où à chaque fois j'ai essayé de savoir le moment le plus dur, le truc, à chaque fois on a l'impression que ça glisse sur toi, que tu viens un rêve éveillé, que toutes les difficultés, tu les transformes. Mais est-ce qu'il y a eu une période de doute quand même importante dans ta vie ? Et si oui, laquelle ?
C'est avant de démarrer l'entretetien avec toi.
Menteur.
Non, mais Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je mets 4 ans pour faire 15-3, 15-2.
Voilà, c'est celle-là.
Mais j'étais pas triste à l'époque. J'y croyais, autrement. Et je m'éclatais, j'allais taper dans la balle, je faisais du physique.
Mais à cet âge-là, quand t'as 25 piges, que tu passes ton temps à faire des tournois et que tu mets 4 ans à prendre un classement, tes parents te disent quoi à ce moment-là? Comment tu t'assumes?
Je ne sais pas ce qu'ils me disent. Moi, je les ai remerciés d'avoir lâché prise et d'avoir osé m'accompagner et d'y croire. Et tu sais, quand tu as un gamin qui, tout d'un coup, bosse du matin au soir, il croit grave, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, je te dire. Mais moi, quand j'ai commencé le tennis, j'étais à 32, je faisais les tournois en stop, je dormais dans les vestiaires. Mais moi, le tennis, c'était l'aventure, c'était les voyages. C'était ça. Et après, si tu veux, moi, quand je partais en tournoi, il y a peut-être des coachs qui flippent en disant « Putain, je fais à l'autre bout du monde, le coach, il paye le billet d'avion et éventuellement business. » Et de se dire « Putain, s'il se gaufre au premier tour. » Mais moi rien que d'arriver à l'aéroport, d'entendre le prochain vol et tout. Moi, quand j'étais petit avec mes parents, on allait bouffer à Orly et on regardait les avions s'envoler. Tu crois pas que c'est un truc de dingue, ça? Bon, ben voilà. Bon, ça se faisait à l'époque. Hein. Mais voilà, donc c'est, si tu veux, c'est voilà, je...
Et donc, tu regardais les avions avec tes parents et vous rêviez d'évasion, de voyage?
Sûrement.
Ah, c'est incroyable.
Et voilà. Ben oui, donc, je joue pas un rôle. Voilà, c'est pour moi, il n'y a pas de difficulté. Les difficultés, je les ai rencontrées. Je les ai réglés. Et puis maintenant, la vie est un jeu hein, pour moi. Vraiment. Tu vois, la vie est un jeu.
Qu'est-ce que tu pourrais quand même glisser à l'oreille du Ronan qui n'avait pas encore le BE et qui lui ferait du bien d'entendre dès maintenant, là, dès tout de suite, de réinventer le monde ou je ne sais pas.
Bon, non, parce que ça, je l'avais au fond de moi.
Ok. Mais de ton bagage aujourd'hui, de ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais lui dire?
Pour gagner du temps?
Ouais.
Je pense que j'avais une vie, j'ai eu une vie, mes parents m'ont trop chouchouté et m'ont trop préservé. Et du coup, quand je suis arrivé dans ce monde, pour te donner l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque, j'avais fait une course en vélo, un truc à deux balles, tu vois. Et en fait, j'étais en tête, mais largement, et j'ai attendu que le deuxième arrive pour qu'on arrive ensemble. Bon, bah, tu vois, à l'époque, j'étais très, très touché. J'aurais pu faire curé, mais j'étais pas bon pour aller faire de la compétition.
Ah ouais.
Donc, il a fallu réapprendre et changer tout ça. Et moi, je suis parti dans les Pyrénées à 30 ans. Je suis parti pendant 42 jours tout seul avec le sac à dos parce que je voulais me prouver que fallait que je grandisse, que c'est, ma vie, elle était, mes parents, ils m'avaient rendu trop ça. C'était bien les vacances, c'était bien de partir en vacances tout le temps, mais qu'il y avait autre chose et il fallait que je me construise. Voilà, donc je suis parti 42 jours avec le sac à dos et j'ai traversé les Pyrénées.
Sur quoi, Saint-Jacques-de-Compostelle?
Non, j'ai traversé d'Andaille à Banyuls, toute la chaîne des Pyrénées par les crêtes.
Et t'as compris voilà, quoi, ça a été mon...
Ah bah, j'ai tout compris.
C'est-à-dire
j'ai compris que si je ne préparais pas l'étape, je me perdais. J'ai compris que si je n'étais pas concentré, je me cassais la gueule et ça pouvait être dangereux parce que j'étais tout seul. J'ai compris qu'il fallait s'alléger parce que quand tu es lourd, tu n'es pas agile. J'ai compris tout ça. Et donc, bon, ça. Après, j'ai été léger, agile. Voilà. Et du coup, je préparais tout pour être prêt.
Putain, énorme. On approche les 3 heures d'interview, c'est beau.
C'est pas vrai.
Ouais, incroyable. À qui t'aurais envie de donner le relais, Ronan? Qui aimerais-tu entendre sur le podcast et que tu pourrais éventuellement nous aider à avoir? Gilles, une deuxième fois, ouais. Par exemple.
Bah, tu veux avoir Gilles?
Mais Gilles, tu sais, on a déjà fait une première partie et il y avait son agent à côté, c'était pas si simple. Tiens.
Ah, d'accord. D'accord.
Et j'adorerais faire une deuxième partie parce qu'évidemment, on a fait le millième des sujets que j'aimerais parler.
Bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, ça serait un mec des neurosciences. Tu vois ?
Tu penses à qui ?
À personne.
Merci. Mais merci de ton aide.
Non, mais oui, ça serait aller là-dedans. Ça serait, mais après, t'as fait Emmanuel Planck.
Pas encore.
Bon, bah, y a Manu qui est intéressant, parce que voilà, il a quand même, c'est un des mecs, quand même, pour moi, c'est un des grands entraîneurs français.
Allez, merci okay. beaucoup, Ronan. À très vite.
Merci, Max. Ouais, ça marche. Ciao.
Merci, Ronan, pour ce moment génial. Et merci à toi, jeune légende, d'être au rendez-vous, comme à chaque fois ou pour la première fois, qui sait. Viens me dire, dans tous les cas, ce que t'en as pensé en commentaire. J'adore te lire, ça me motive comme jamais, ça permet au contenu d'être mieux mis en avant grâce au référencement. Alors surtout, ne te bride pas et balance tout ce que t'as. Tu peux aussi nous aider en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je le répète à chaque fois, mais c'est hyper important pour nous. Chaque geste compte pour la survie de ce travail, tout simplement. Un grand merci à Fopam, Marcus, Plush et Coco, qui nous écrit « Les épisodes sont tellement variés qu'on y revient à nouveau avec plaisir à chaque fois. La sincérité, la simplicité de Max et ses invités donnent à ce podcast une authenticité qu'on a plaisir à écouter et réécouter. PS, vivement un épisode avec Stan Wawrinka. » Bon les gars et les filles, aidez-nous à avoir Stan, envoyez-lui des messages, peut-être que ça le motivera. Merci aussi aux tipeurs qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee. Les liens sont juste en dessous pour y accéder. Tu peux nous aider à hauteur de 3 euros par mois ou plus si le cœur t'en dit. Chaque épisode représente plus de 10 heures de taf. On a maintenant les hors-séries en plus et on se creuse au quotidien pour te régaler. Alors voilà, chacun à sa manière, c'est toujours ultra cool de se sentir soutenu. On a sorti mardi dernier notre 4e masterclass d'une heure avec Gilles Tarraquois, prépa mental et sophrologue qui a bossé pour la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes aux côtés de Gilles Moreton, actuel président de la Fédé. À travers ce nouveau cours d'une heure, Gilles nous fait une initiation à la sophro, où je vous sers de cobaye, c'est cadeau. Vous n'avez plus qu'à lancer l'audio ou la vidéo et suivre le son de sa voix pour poser votre respiration et gagner en sérénité sur le cours. Cette nouvelle masterclass va te permettre de mieux gérer ton stress en match, en compétition ou dès que tu fais des points, de gérer la peur de gagner quand la victoire est au bout de la raquette et de reproduire le niveau de jeu de l'entraînement pour jouer aussi relâché en match. Tu vas apprendre à te servir de la respiration pour gagner donc en relâchement et en plaisir sur le cours. C'est cadeau. Tu as accès à ce nouveau cours en format audio et vidéo et je t'ai également concocté un support écrit pour le suivre. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, tu as un lien juste en dessous en description et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. Il suffit de m'écrire à max@tennislegende.fr. Si tu veux un exemple de cours gratuit qu'on a enregistré en ligne, tu as les 4 secrets du statisticien enregistré avec Fabs Barrault, qui travaille avec Gilles Servara, coach de Daniil Medvedev. Tu vas vraiment kiffer, crois-moi. Et tu vas gagner de précieux pourcentages dans ton jeu grâce à la stat en comprenant mieux que jamais ton style et tes forces ainsi que tes faiblesses sur lesquelles tu dois bosser. Il n'y a pas de secret. Enfin, si tu veux nous suggérer des idées, des partenariats ou autres, viens me le dire sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta à Max Emia et E-T-M-I-A, M-I-A, le tout attaché. C'est toujours très cool d'échanger et je réponds à tout le monde, sans exception. Bon, ça l'a pas fait, hélas, la semaine dernière pour le hors-série du Challenger de Brest. Dommage. Et sinon, quelques nouvelles d'Hugonis, avec qui on a fait notre dernière hors-série. Il a fait finale avec son compère actuel, le Kazakh Andrei Golubev, sur le 250 de Saint-Pétersbourg même. Il pointe au meilleur classement de sa carrière en double, jusqu'à maintenant 41e, et Andrei est lui 28e, également meilleur classement cette semaine pour lui. Il se partage 150 points et un peu plus de $11,000, ça fait du bien. Je vous précise aussi que notre ami Stéphane Houdet participe au Master de fin d'année en tennis fauteuil à Orlando, en Floride, n'hésitez pas à regarder, c'est possible de suivre en streaming directement sur leur site où vous pouvez également checker le live score. Et n'oubliez pas d'envoyer un petit mot sur l'Insta de Steph et d'Hugo pour le féliciter de la semaine dernière, c'est toujours ultra cool de se sentir soutenu. Voilà, c'est tout pour cette semaine, n'oubliez pas le bouche à oreille qui nous aide comme jamais, alors envoyez cet épisode ou votre épisode préféré à quelqu'un susceptible de kiffer et surtout envoyez des souches sur le cours et des bonnes ondes. À très très vite les légendes et prenez soin de vous. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.